Et le défi lancé. Alors, le défi lancé.
Jean-Pierre Petit, on va aborder les questions.
Alors,
on va
allons-y pour les questions.
Sur le chatroom de ici-et-maintenant.com. Alors, elles sont nombreuses. Ce que dit Jean-Pierre Petit sur le MLJ a déjà été dit par d'autres spécialistes de l'armement depuis 1996 et ça n'a pas changé grand-chose. Voir le rapport G. Spooner et Urny de l'INESAP. Il ajoute, RGDST, c'est son pseudo, d'ailleurs des révélations identiques ont été faites au sujet des armes à antimatière et de quatrième génération par certains prix Nobel dont Charpak et aussi par l'INESAP depuis longtemps. Enfin, il est assez sceptique. Pour lui, on peut toujours dire la vérité au public et ça ne fait pas évoluer les choses.
J'ai pas compris ce que dit cet homme, parce qu'il dit des révélations similaires, mais ces gens disent quoi? Que ça marche, que ça marche pas
Il fait allusion au rapport G. Spooner.
Oui.
Urny.
G. Spooner, je connais. C'est un type qui s'occupe d'un truc qui s'appelle l'INSRI, je crois, qui est à Genève. C'est un physicien assez calé, d'ailleurs, s'intéresse pas mal au développement possible du nucléaire. Quoi. Il a été un des premiers à suggérer qu'on puisse se servir d'antimatière stockée dans des cristaux pour initier la fusion dans des bombes à hydrogène, des trucs comme ça. Bon.
Et ce serait sur le site inesap.org. Et donc, en somme, pour résumer, il paraît assez sceptique quant à propager la réalité, et pourtant, rien ne bouge, les terriens semblent complètement inertes. Enfin, nos contemporains, pour dire...
C'est-à-dire que dénoncer un truc, dire c'est bidon et personne ne bouge, c'est normal, quoi.
Voilà, ouais, c'est son constat, sa conclusion. Matteau nous dit, salut, ne pensez-vous pas que les crop circles représentant souvent des formes de géométrie fractalienne et donc de la théorie du chaos, ordre et désordre partout, serait un message des E.T. pour nous guider vers cette clé pour comprendre les univers, le ou les univers.
Oui, mais là, on sort du sujet, là, on est en train de parler de mégajoules, alors je crois qu'il faut rester dans mégajoules.
Oui, mais je vois s'accumuler de nombreuses questions, je voudrais pas leur faire de peine non plus, parce qu'ils ont pris soin de... Et tout ça encore avant de libérer le standard et les amener à dialoguer en direct avec Jean-Pierre Petit.
Je veux bien, parce que là, cette histoire fractale, ne pensez-vous pas? Peut-être. Là, ma réponse, c'est peut-être.
Bien. Pour Mégajoule, c'est vrai que le défi a été lancé, là, au moins sur cette antenne. À bon entendeur, peut-être un journaliste va se bouger. Quoi.
Voilà.
Phil nous dit, de nombreux principes physiques, même ceux qui restent inexpliqués, décrits par Einstein dans sa théorie de relativité générale de 1916, ont pu être vérifiés expérimentalement, comme par exemple la courbure d'espace-temps sous l'effet d'une quantité d'énergie ou masse.
Là je comprends pas, c'est une question ou quoi?
C'est une remarque qu'il fait, mais évidemment...
Oui, disons que ça a été vérifié en 1917, c'est-à-dire que lorsqu'il y a eu cette théorie d'Einstein, c'est d'ailleurs un truc qu'il faut faire remarquer, c'est qu'en fait la métrique qu'a utilisée Einstein était découverte par un type qui s'appelait Schwarzschild, qui est peut-être le génie de la relativité générale, mais il n'a pas pu en profiter parce qu'il est mort dans les tranchées. Il a été gazé, il a succombé des suites de la guerre de 14-18, quoi. Parce qu'il est parti faire la guerre alors que Einstein était pacifiste, il est resté chez lui. Et pour cette histoire de courbure, eh bien, l'effet, c'est que lorsqu'il y a eu une éclipse totale, qui nous permettait de ne pas prendre tous les rayons du soleil dans la figure, eh bien, en voyant passer une étoile derrière, elle accélérait et puis elle ralentissait en sortant. Et c'est ce genre d'aberration par rapport au mouvement apparent de l'étoile tout à fait normal qui a pu être constaté à l'aide du télescope et qui a constitué une confirmation tout à fait sympathique de la théorie de la relativité générale. Voilà, c'est tout. Enfin, ça, on sort de... On est dans les généralités, hein, là-dedans. Tu as d'autres questions?
Oui, toujours ce G. Spooner. Est-ce que tu connais ses travaux et ce physicien des hautes énergies et ses révélations en 96?
Oui, je connais un petit peu ses travaux. Et surtout, il y a un truc, c'est un type avec qui je sympathise pas mal. Et j'avais déjà prévu d'aller à Genève le rencontrer, quoi, parce que je pense qu'on a des choses à se raconter, quoi.
Bien. Donc les journalistes se tairent, en fait ils se comportent comme des lâches.
Oui, carrément.
Et
ils sont très lâches.
Tu dis également sur le site, quelque part sur ce site, cette phrase qui tue, partout on consomme des mensonges à haute dose, et le public, visiblement, c'est moi qui l'ajoute, semble s'en contenter.
Ah oui. Mais ça c'est fantastique, je veux dire que... Je dirais que la science, elle est, elle a en principe comme mission de nous informer, en fait elle nous désinforme. Parce que la science, elle a ses marchands de sable, hein, ces gens qui vous vendent de la poussière d'étoiles, quoi. C'est Pangloss qui explique que tout est pour le mieux dans la meilleure des sciences possibles. Et cette science-là, elle ne va jamais égratigner les militaires. C'est pas nos physiciens des hautes énergies qui vont s'amuser à poser des questions sur mégajoules.
Un autre intervenant nous faisait remarquer, nous disait il y a quelques temps de cela déjà, sur le chatroom de icimaintenant.com, qu'il serait facile de désinformer Jean-Pierre Petit en lui adressant une pseudo-lettre humide avec des caractères, avec un coup de tampon à l'identique, et que c'est assez facile de se prétendre pour ce qu'on n'est pas, d'annoncer qu'il fait allusion à une lettre que je n'ai pas lue sur le Saint-Suaire, en disant lorsqu'il y a erreur, mais ça faisait partie du jeu et c'était une fausse information pour vous stimuler, je ne sais quoi.
Et pourquoi est-ce que la lettre sur le Saint-Suaire, elle serait une fausse information? Moi, je vous renvoie la question.
Bien. Eh bien, si on libérait le standard pour que je cesse d'être le facteur et que des questions interviennent en direct. Alors, qu'est-ce qu'on annonce, Alex? Le 44 ou le 45? Le 44, 01, 45, 75, 44, 44. Il y aura beaucoup de demandes et peu seront servies. C'est comme ça. Quelqu'un l'a dit avant moi. 01, 45, 75, 44, 44. Nous sommes en direct depuis quelques heures déjà avec Jean-Pierre Petit, dont le site est passionnant. Jean-Pierre Petit, ça s'écrit jp-petit.com en langage internet. jp-petit.com. Et effectivement, dans Nouveauté, on peut se balader. L'auteur le met à jour très très régulièrement, pratiquement tous les jours ou plusieurs fois par jour. N'est-ce pas?
Oui, ça arrive une fois par jour ou tous les deux jours. Enfin, j'ai rajouté pas mal de trucs ces temps-ci, quoi. Et surtout, j'étais assez motivé par le fait qu'à chaque fois que je mettais un dossier, badaboum, il y a quand même des centaines de gens qui déboulent. Les fichiers qui ont été installés début septembre, il y a déjà 1200 ou 1300 personnes qui les ont consultés. Donc ça veut dire que ça intéresse les gens, quoi.
Bien. Nous allons recevoir Pascal.
Bonsoir.
Bonsoir.
Bonsoir. Bienvenue. Je suis très intéressé par la mécanique quantique et à la fois très intrigué. Et j'ai passé beaucoup de nuits blanches parce que j'ai pas fait d'études, j'ai bac moins 8, à méditer sur toutes ces choses-là, quoi. Et récemment, j'ai vu dans un article de Science Civique qu'il y avait un savant qui avait donné une nouvelle perche à la physique quantique en la simplifiant beaucoup, en fait, en décrivant une notion d'information dans le comportement des particules et non plus celle des observations qu'on faisait, quoi. Et grâce à cette découverte, il paraît que maintenant on peut avoir enfin une intuition de la physique quantique. Est-ce que vous en savez plus sur le sujet? Et la deuxième question, ce sera ma dernière question. On dit accélérateur de particules. Je ne comprends pas très bien le terme accélérer une particule, quoi. Ça, j'avoue que ça m'échappe un petit peu. Voilà.
La deuxième question, c'est relativement facile de répondre.
Merci.
La première, ça allait beaucoup moins. Et je me rappelle une remarque qu'avait fait mon ami qui est mathématicien Jean-Marie Souriau et qui est aussi très calé en physique. Et je lui avais dit, il y a un certain nombre de bandes dessinées de l'entourlu et on a abordé des tas de questions, la relativité restreinte, la relativité générale, le Big Bang, etc., etc. Moi, je me disais, j'ai envie de faire un truc sur la mécanique quantique et comment est-ce qu'on pourrait faire pour vulgariser ça? Et il a fait cette réponse qui me paraît très bonne. Comment veux-tu qu'on vulgarise quelque chose qu'on ne comprend pas? Et c'est là que peut-être les gens vont être très surpris. Je crois qu'il faut lire les bouquins de Feynman. Feynman, un type fantastique. Et dans une préface, je ne sais plus de quel livre il s'agit, mais Feynman écrit, si je me souviens bien, peut-être un jour rencontrez-vous quelqu'un qui vous dira « j'ai parfaitement compris la mécanique quantique », eh bien, vous serez face à un menteur, parce qu'en fait, on ne comprend pas pourquoi ça marche. Donc, si vous voulez, la mécanique quantique, c'est mystérieux, parce que il y a quand même des choses qui fonctionnent, ça a ses limites, ça a son champ d'application, mais le pire, c'est que ce qui marche, on ne sait même pas pourquoi ça marche. Donc, moi je crois, enfin c'est mon intuition, hein. Vous connaissez peut-être ce modèle des épiciques de Ptolémée, c'est-à-dire que lorsque Ptolémée s'est intéressé au système solaire, il n'a pas voulu abandonner le géocentrisme, c'est-à-dire qu'il imaginait que les planètes continuent à tourner autour de la Terre. Or, il était évident, d'après les observations, que Vénus ne pouvait pas tourner en cercle autour de la Terre puisqu'elle faisait marche arrière et il repartait. Donc à ce moment-là, comme Aristote avait dit que tout devait marcher avec des cercles, Ptolémée a fait un modèle où il y avait deux cercles, il y en a un qui roulait sur l'autre. Donc à ce moment-là, ça pouvait expliquer la trajectoire avec marche arrière de Vénus. Et alors, ce qui est extrêmement pervers dans cette histoire-là, c'est que si on trouve qu'avec deux cercles ça marche pas, on en rajoute un troisième, ça marche encore mieux, puis on en rajoute un quatrième, et avec plein de cercles, on arrive à rendre compte des mouvements des planètes dans le ciel. Et lorsque on a abandonné le système de Ptolémée, ça fonctionnait avec 48 cercles. Au point que le roi d'Espagne, quand son précepteur avait commencé à lui expliquer ça, il avait dit: si Dieu m'avait consulté avant de créer l'univers, j'aurais recommandé quelque chose de plus simple. Mais avec ce système, disons, avec ces 48 cercles, on arrive à faire des prédictions sur les éclipses, des prédictions astronomiques très bonnes. Donc autrement dit, voilà un modèle faux qui donne des résultats exacts. C'est extraordinaire. Et la mécanique quantique fait un peu penser à ça, au sens où elle est perfectible. On peut toujours créer de nouvelles particules, créer de nouveaux machins, de nouveaux trucs. Il y a un spectre absolument infini. Et les Humites ont une image dans un de leurs rapports, et ils disent: vous êtes simplement en train de regarder les différentes couleurs qu'on peut former avec un bouchon de carafe, en faisant s'y refléter la lumière. Donc les particules ne sont que des reflets de quelque chose. Et moi je pense aussi que il n'y a pas à attendre un progrès de la mécanique quantique. Il y a à attendre quelque chose qui un jour va la dépasser, va la transcender complètement. Alors évidemment, il y a des gens qui vous diront: c'est formidable, c'est les supercordes, mais les supercordes, ça donne strictement rien, quoi. Là, c'est merveilleux parce que c'est une théorie qui n'a même pas prétention d'expliquer quoi que ce soit. Elle ne peut pas s'expliquer elle-même. Elle n'a jamais prédit le moindre phénomène. C'est extraordinaire, comment. Alors ça, c'est la réponse à la première question. La seconde, pour l'accélération de la particule, ben, effectivement, on accélère des particules. Alors, comment est-ce qu'on fait pour fabriquer des particules à hautes énergies? Eh bien, on prend de l'hydrogène et puis on l'ionise. Hein, on obtient à ce moment-là des protons et des électrons. Et un gaz ionisé comme ça, ça réagit à une variation spatiale du champ magnétique. C'est-à-dire que autour des anneaux des accélérateurs, il y a des bobinages, et ces bobinages sont parcourus par des courants assez intenses, mais qui varient dans le temps. Alors ça fonctionne exactement comme les muscles qui font ce qu'on appelle les mouvements péristaltiques dans l'intestin grêle. Quand vous prenez un intestin grêle, il y a des muscles qui sont autour et qui se contractent et qui propulsent ce qu'on appelle un bol alimentaire. Je pense que quand même si vous êtes à bac moins 8, vous dites, vous allez peut-être trouver ça à l'école, ou alors si on enseigne plus ça, c'est...
En tout cas, vous le pratiquez tous les jours.
Oui, voilà, vous le pratiquez exactement. C'est-à-dire que quand vous êtes en train de digérer et que vous propulsez quelque chose dans votre intestin grêle, ça veut dire que derrière, ça se contracte comme ça. C'est exactement ce qui se passe dans un accélérateur de particules, sauf que cette contraction est magnétique. Et ce que les gens ne savent pas, et que j'ai appris il y a quelques années, mais ça m'a un peu surpris, c'est que quand on prend un accélérateur comme celui du CERN ou n'importe quel accélérateur de particules et qu'on accélère les particules, eh bien ça prend des heures. Ça se fait pas en un millième de seconde. Ça veut dire qu'on prend ces protons et on les accélère. Bon, certainement, ils doivent atteindre des vitesses très importantes assez rapidement. Mais après, le problème, c'est d'arriver à leur faire gagner des kilomètres secondes supplémentaires pour qu'ils commencent à approcher la vitesse de la lumière.
C'est comme tourner en rond dans une cour et se faire taper dans le dos par des camarades disposés en cercle.
Oui, c'est ça. Et à ce moment-là, on donne à chaque fois un surcroît d'énergie aux particules. Et quand on prend un collisionneur, ça veut dire qu'on a une boucle et puis une autre boucle qui tourne dans l'autre sens. Et on accélère les particules. Et puis quand elles sont bien rapides, à ce moment-là, pof, on les met face à face et bing, elles se rentrent dedans, quoi, c'est ça. Je pense que j'ai répondu à la question, mais on les accélère réellement, hein.
Nous recevons Gabriel.
Oui, donc, en fait, moi, déjà, je voulais commencer par une petite remarque, en fait, tirer mon chapeau un peu à l'émission. D'une part, parce que...
Le couvre-chef.
On parlait un petit peu de... Enfin, vous parliez un petit peu d'info et d'intox, je crois. Donc, d'une part, si c'est de l'intox, c'est fait de telle manière que c'est excellent.
Laquelle? La quoi?
Bah, toute l'émission.
L'émission.
Et d'autre part, si c'est réellement la réalité, c'est dit de manière tellement poétique et, enfin, je sais pas, ça sonne bien juste, quoi, donc, Et en même temps, qui est-ce que ça pourrait réellement inquiéter sur une radio locale à 2h du matin?
Non, mais je vais vous dire la chose suivante. Bon, je connais Didier Leplège, je sais pas, depuis une dizaine, une quinzaine d'années. Hein, bon.
Depuis 77, Jean-Pierre.
77, donc c'est fou.
Tu venais d'avoir un accident de...
Ah oui, oui.
De Delta.
Ah, exact.
De Delta, tu avais une ceinture autour des reins.
Ah, d'accord. Bon, mais si tu veux, il y a une chose quand même, c'est que... là, je passe sur cette radio à 2h du matin.
Oui.
Bon, c'est très bien, mais pourquoi je passe pas sur un plateau de télévision dans une émission de grande audience face à des scientifiques pour discuter d'un truc comme ça? Oui. C'est parce que c'est pas possible.
Trop flippant pour eux ou...
Quoi?
Trop flippant pour eux ou...
Mais flippant ou interdit. Oui. Je veux dire que... comment dire... On n'a pas accès à ce genre de choses. Moi, lorsque j'ai sorti le bouquin sur les humites, la requête sur les extraterrestres qui sont déjà parmi nous, j'ai eu droit à une émission où on a essayé de casser cette affaire. C'était une émission qui avait été montée par Berkoff sur la 5, qui s'appelait, je sais pas, ça m'intéresse, ou un truc comme ça. Il y avait un plateau où on était avec Benveniste, et où il y avait une tapée de types qui étaient là pour nous jeter des pots de banane. On avait vraiment cette impression, quoi. Ils étaient des gens qui faisaient des pots de banane, jetaient des pots de banane. Et en face, il y avait une meute d'ufologues qui aboyaient tant qu'ils pouvaient, et le but, c'est, on était à 25 contre 1, quoi. C'était de discréditer cette histoire-là. Hein. Et il y avait sur le plateau Castelot, là, comment elle s'appelle, je ne me rappelle plus son
Martine.
Vrai, Martine Castelot, journaliste, hein, qui avait sa carte de journaliste scientifique, et qui avait aussi sorti un bouquin sur l'affaire Oumou, qui s'appelait Oumou, le langage extraterrestre chez Lafont, quoi. Et lorsque Berkoff a lancé Castelot là-dessus, il lui a dit, alors que les humides, comment ça se passe, il paraît qu'ils bandent pendant les accélérations, c'est vrai que dans ce dossier Oumou, il y a à boire et à manger, il y a des choses qui sont, on pourrait dire, totalement discréditantes. Et elle a complètement donné dans ce jeu, et après, j'ai dit, alors moi j'ai essayé de recentrer le sujet sur des trucs un peu plus solides, quoi, un peu plus scientistes. Et après, j'ai dit à Martine Castelot, mais Martine, pourquoi vous avez tenu ce discours? Elle m'a dit, c'est pas difficile, c'était ça ou ma carte de journaliste qui sautait.
Hein, enfin bref, de toute manière, en fait, c'était juste une...
Non mais vous voyez, c'est pas de la rigolade.
Oui, ouais.
Et ensuite, lorsqu'on s'est trouvé sur ce plateau, il se trouve que les choses ont tourné en notre faveur, en ma faveur, que mon bouquin s'est vendu, qu'il a fait, je sais pas, 60 000 exemplaires ou un truc comme ça, c'était pas prévu. Mais il a fallu se battre. Je me rappelle, j'étais face à des ufologues qui aboyaient. Il y en a un qui disait, le professeur Bergougnou de Toulouse dit que ça tient pas la route. Et j'ai dit, mais il fait quoi votre professeur Bergougnou? Parce que moi, je m'appelle Jean-Pierre Petit, je suis astrophysicien, j'ai fait de la MHD, la mécanique des fluides, je connais un petit peu, etc., etc. Et il fait quoi votre professeur? Non, il est pas là. Et vous, à ce moment, l'ufologue me répondait, ah, vous faites du terrorisme intellectuel. Non, je fais pas du terrorisme intellectuel. Je veux savoir qui j'ai en face, bon sang. Et vous faites quoi dans la vie, quoi, c'est tout. Donc, ça les emmerdait sacrément, ces gens-là, de s'aventurer sur un terrain scientifique qui était trop glissant. Mais il n'y a pas eu une deuxième émission de ce genre.
Non, et puis de toute manière, on a bien failli jeter au feu, il y a quelques siècles, quelqu'un qui a prétendu que la Terre était ronde, je crois.
Donc, Oui, mais enfin, bon, bien sûr, mais je veux dire que... Ça m'est arrivé une des dernières émissions à laquelle j'ai participé, c'était J'y crois, j'y crois pas, de Tidia Kiffer. C'était, je sais plus, en 95, un truc comme ça. Il y avait un journaliste qui s'était déplacé, qui m'avait dit, vous savez, on va vous faire un plateau avec des scientifiques, avec ceci, avec cela, avec ceci, avec cela. Et je me suis retrouvé face paix à son âme, hein, Gilles Lopétré, qui avait fait son livre Les charlatans du ciel. Bon, Gilles Lopétré, parlant des ovnis, en disant que, en insistant sur le fait qu'il faisait des prélèvements de sperme et que lui, il connaissait des moyens beaucoup plus agréables de prélever du sperme, ça tournait à la discussion de bistrot. Et j'étais avec Rouxel, un journaliste aéronautique. Nos micros étaient débranchés, vous entendez? On était sur un plateau, on n'avait pas de micro, on le savait pas d'ailleurs. Hein.
Ouais.
C'est hallucinant, pareil. Je veux dire que moi, si je sors un bouquin, que je suis invité sur un plateau de télévision, hein, on me refera pas ce coup-là. Parce que si je m'aperçois que mon micro est débranché, je vais, là, c'était Sinekifer, j'aurais su un truc comme ça. Je serais allé voir cette dame-là en disant, est-ce que vous pouvez me passer votre micro? Parce que le vôtre, il marche, hein. Alors, je voulais simplement dire une chose aux téléspectateurs, c'est que mon micro est débranché, alors je vous laisse vous amuser, moi je m'en vais. Tenez, au revoir. Et je fous le camp.
Ouais.
Parce que être sur un plateau pour un débat avec un micro qui marche pas, vous appelez ça comment?
C'est sûr. Enfin, de toute manière, en fait, ma question, c'était une question simple. C'était simplement de savoir, moi, petit citoyen lambda, au jour le jour, comment est-ce que je peux faire la différence entre l'info et l'intox, quoi. Que ce soit aussi bien au niveau d'Internet qu'au niveau livresque, qu'au niveau de la radio. Ou...
C'est une bonne question, hein. Une bonne question, parce que, disons que vous prenez un monsieur comme Charpak, par exemple, vous auriez pris Nobel, vous allez lui dire tout ce qu'il dit, c'est vrai, quoi. Hein? En fait, si vous voulez, il y a une chose, c'est que ce que disent des gens comme moi, c'est qu'on ne sait pas grand-chose. C'est pas du misérabilisme, mais
l'humilité.
La science passe son temps à affirmer des trucs. Or, en fait, si vous avez un peu de recul dans l'histoire des sciences, vous apercevez qu'il y a des choses qui sont cassées la figure, quoi. Donc c'est une sorte de plaidoyer pour le doute, pour la... Tout à l'heure, Holbeck parlait des crop circles en disant il y a différentes théories. Moi, je ne crois rien en particulier. Il ne faut pas s'accrocher aux idées en disant je suis sûr que ceci, je suis sûr que cela. Les certitudes, il n'y a rien de plus trompeur, quoi. C'est tout. Donc, la différence, la science est une espèce de dialectique, les choses finiront par se... tout évolue, quoi. Et je vous dirais même la chose suivante, c'est que, par rapport au sujet OVNI, il y a des sujets que je prends au sérieux qui me faisaient rigoler il y a 20 ans. Voilà. Donc, vous voyez, en biologie, par exemple, l'évolution de l'homme, même vis-à-vis de la métaphysique, des religions... Il faut être très prudent dans ce qu'on raconte. Et je pourrais vous dire une chose. Si vous devez faire le tri entre l'information et les informations, méfiez-vous des gens qui sont trop sûrs d'eux.
Ouais.
Qui vous expliquent l'univers, disant il s'est passé ci, il s'est passé ça, etc.
Mais par exemple, sur un livre, moi je sais que j'utilise assez peu Internet, par exemple, mais j'aime bien bouquiner. Comment faire la différence je peux pas contredire un livre.
Oui. Ben, par exemple, si vous voulez, lisez les trois premières minutes de l'univers de Weinberg. Vous avez un très bon bouquin de physique. Lisez les livres de Feynman, par exemple. Vous essayez de les lire. Ça, c'est très costaud. Hein. Maintenant, un livre qui est une escroquerie complète, c'est l'univers élégant de Ludwig, là, sur les supercordes. Alors ça, ce sont des ouvrages, mais c'est très compliqué de démonter un truc comme ça, parce que ça commence par de la bonne vulgarisation. Et la vulgarisation, c'est toujours agréable, parce qu'on se sent intelligent. Et quand vous prenez le livre de... Comment il s'appelle, l'univers élégant de Green, hein, il a fait un best-seller avec ce truc-là, ça fait 400 pages. Vous voyez de la vulgarisation, et on annonce, on va vous expliquer ceci, on va vous expliquer ceci, ceci, ceci. Et le lecteur se perd. Il n'y a pas un type sur 100 qui va au bout du bouquin. Mais quand on le lit entièrement, on se retrouve à la sortie, il n'a rien expliqué. Ou alors plutôt, comme nous avons expliqué précédemment. Et ça, je vais donner une image analogique parce que je trouve que c'est tout à fait ça. Vous vous rappelez l'histoire du type qui va dans un bordel et puis il paye à l'entrée et après il voit une porte. Qu'est-ce que vous aimez, les brunes, les blondes, les rousses? Alors il choisit.
Mais à la fin, il se retrouve dans la rue de l'autre côté.
Voilà, exactement. D'accord. Et ben le bouquin Green, c'est ça. Vous payez 180 balles, on vous explique l'univers de A à Z et vous retrouvez. Le scientifique comme moi, j'ai mis un dossier dans mon site en expliquant ça, hein, et ça explique un peu le bouquin de Green. Et il y a des lecteurs qui me disent, bah écoutez, heureusement que vous nous expliquez ça parce qu'on comprend pas bien, quoi. C'est sûr qu'on se fait avoir dans une histoire comme celle-là. Et il y a d'autres auteurs, bon, j'ai pas tellement envie de les citer, il y a un français aussi qui fait un peu pareil en disant, je vais tout vous expliquer, mais il explique rien du tout.
Okay.
Ok. Merci Gabriel.
Ben, je vous remercie beaucoup, je voulais juste finir par une petite remarque. Allô?
Oui.
Oui, c'est que je trouve un petit peu dommage, disons, que beaucoup de gens essaient de découvrir tant de choses dans l'univers alors qu'il y a beaucoup de choses à découvrir en soi-même, quoi. Voilà.
Certes.
Bien. Je remercie Gabriel, mais tu vas voir la question que je vais poser en transition en attendant le prochain appel à Jean-Pierre Petit va peut-être être éclairant, du moins sa réponse. 01 45 75 44 44. Jean-Pierre Petit, à la lecture de certains textes du mythe, on est évidemment à l'affût de savoir quelle est leur motivation, et curieusement, pour beaucoup de lecteurs, ils disent simplement qu'on est venu chercher les émanations, les réalisations de Oura dans d'autres parties de l'univers.
On est venu chercher quoi ?
D'autres manifestations de Oura, ce qu'ils appellent Oura.
Alors là, on rentre dans le sujet de la métaphysique. Mm-hmm. En tout cas, il y a une chose, moi je voudrais dire un peu, je suis tombé dans la marmite comme Obélix sur le sujet OVNI, quoi, il y a 25 ans et plus. Et qu'est-ce que j'en ai retiré ? Ça revient à rebondir sur la question de l'auditeur précédent qui disait pourquoi étudier l'univers alors que ceci, alors que cela. Ce que j'ai ressenti le plus fortement, c'est que ça amène un nouveau regard sur la planète Terre. Et en lisant ces textes et en lisant les commentaires qu'ils faisaient sur ce qui se passait sur Terre, c'est de découvrir à quel point nous sommes malades, à quel point nos civilisations sont malades. Dans les années 75, on voyait des textes où les humites expliquaient que les Russes, quand ils faisaient... plus tardivement que ça, mais enfin, au moment où il y avait la guerre en Afghanistan, les Russes avaient développé des gaz qui créaient des dégâts neurologiques irréversibles chez les gens, et puis que de l'autre côté, les Américains avaient envoyé 500 spécialistes de la torture pour expliquer aux gens dans les pays d'Amérique latine comment il fallait s'y prendre. Et je veux dire que de quelque côté que c'était, quand on voyait des informations qui arrivaient, on disait, mais c'est l'horreur. Et en fait, c'est ce qu'on voit maintenant. C'est vraiment... quand on a un œil d'extraterrestre, imaginez que vous veniez d'une planète où les gens ne s'étripent pas, où ils gèrent leur planète de manière sympa. Moi, je pense d'ailleurs une chose, et c'est une sorte d'application de ce qui se trouve dans ces textes, c'est que nous sommes à la veille d'un âge d'or, mais quand je dis à la veille, c'est quelques dizaines d'années, et peut-être même déjà les expériences essentielles ont déjà été faites. C'est-à-dire que si on arrive à transformer de la matière en antimatière, à ce moment-là, on peut réaliser la conversion directe de l'énergie, de la matière en énergie. Bon, je m'explique. Avec l'équivalence d'Einstein, E égale MC2. Autrement dit, on nage dans de l'énergie. Quand vous êtes dans votre baignoire, si vous transformez la masse de la flotte qui est dans votre baignoire en énergie, vous allez encore ravager la Terre, quoi. Donc on pédale dans de l'énergie. Simplement, il faut que cette énergie soit explicitée. Et si on arrive à transformer de la matière en antimatière par compression, à ce moment-là, on libère des quantités d'énergie absolument phénoménales avec lesquelles on peut continuer à alimenter l'expérience. C'est-à-dire que l'énergie devient gratuite à ce moment-là. Et non seulement l'énergie devient gratuite, mais cette énergie-là, on peut l'utiliser à faire des transmutations. Parce qu'on a à ce moment-là une énergie assez dure, assez concentrée pour agir sur des noyaux. Et il y a une logique à ce moment-là dans cette extimite. Ces gens prétendant être capables de faire ça, il y a des physiciens de Ricier qui me disent, mais ça paraît pas si idiot que ça. C'est que non seulement l'énergie devient gratuite, mais les matières premières n'ont plus on peut fabriquer de l'or pur avec les cailloux des chemins, quoi. Vous fabriquez n'importe quel atome. Il n'y a pas besoin de chercher du charbon, des mines de fer, du tungstène. Vous avez besoin de, je sais pas moi, de titane. Ben vous prenez du silicium qui est sur le bord de la route et vous faites du tungstène avec, quoi, c'est tout. Donc pas de problème de matière première et pas de problème de déchets. Vous avez des déchets, ben vous les transmutez en hélium et vous en débarrassez. Quand on a de l'énergie, on peut tout faire. Avec de l'énergie dans des gammes de fréquences pareilles, on peut vraiment tout faire. Donc, des gens qui maîtrisent ça, qui comprennent aussi comment fonctionne le vivant étant quelque chose qu'il faut peut-être suivre plutôt que de chercher à le massacrer. Si on essayait de comprendre comment fonctionne la nature et qu'on fonctionne en meilleure harmonie avec elle, ce serait mieux que d'essayer désespérément de la manipuler, quoi, de faire des manipulations génétiques ou des choses de ce genre. Donc, on peut imaginer que des gens sur des planètes aient atteint ce seuil et qu'à ce moment-là, ils n'ont plus de problème d'énergie, ils n'ont plus de problème de matière première, ils n'ont plus de problème de déchets. Le corollaire aussi, c'est que ils travaillent peut-être, mais ils n'ont plus grand-chose à foutre, parce que si on fabrique des machines qui sont capables de s'auto-réparer, hein, c'est tout à fait envisageable, un truc pareil, à ce moment-là, elles sont éternelles, elles ne s'usent pas, puis elles fonctionnent, puis elles produisent. Puis ensuite, pourquoi iriez-vous tuer votre voisin pour lui piquer son collier de diamants, alors que vous pouvez fabriquer du diamant avec du charbon ou avec les cailloux du bord de la route? Ça n'a aucun intérêt. Donc à ce moment-là, il y a une espèce de saut qualitatif au point de vue de la culture, de la civilisation, qui fait que posséder ce que possède le voisin n'a plus aucun sens, puisque n'importe qui pourrait posséder n'importe quoi. Donc vous arrivez de cette planète sinon édénique, du moins stabilisée, et vous arrivez sur Terre. Vous jetez un œil sur ce qui se passe sur Terre, et c'est là vraiment qu'on arrive à cette conclusion que je trouve dramatique, c'est que si vous avez des connaissances scientifiques qui permettent de faire des choses comme ça, elles ont des retombées négatives épouvantables. Si vous savez fabriquer de l'antimatière, alors c'est que vous savez fabriquer des bombes qui sont capables de ravager n'importe qui. Si vous maîtrisez le vivant, alors c'est que vous êtes capable de créer des cancers, etc. Et quand vous voyez des terriens, vous vous dites, si je leur file un tuyau, ils vont foutre la merde. Et quand j'avais rencontré ces Américains là en Angleterre en 2001, ça tournait autour de ce qu'on avait pu produire comme retombée à partir du sujet OVNI. Ça n'était que des armes. Et ces gens-là, moi je pouvais les trouver très sympathiques. C'est vrai qu'ils étaient sympas, quoi. Mais il y en a un qui avait quand même passé 20 ans de sa vie à travailler pour mettre au point une torpille MHD allant à 2000 km/h. L'autre qui avait trempé jusqu'au cou dans le projet Aurora. Mais ils ont l'air gentils comme tout, ces gens-là. Et ils sont gentils comme tout. Mais est-ce qu'ils se rendent compte de ce qu'ils font? C'est-à-dire que lorsque je suis sorti de super-héros, le premier job que j'ai fait, entre-temps j'avais fait d'autres métiers. À un moment je me suis décidé à être ingénieur et j'ai atterri à la Société d'études de la propulsion pour réaction, la SEP, quoi. Et là-dedans, on essayait des fusées à poudre. Et comme j'étais complètement dans la lune, tête en l'air, tout ça, j'avais même pas réfléchi à ce qu'on foutait dans cette usine. Et dans ce centre de recherche, on mettait au point les propulseurs à poudre des fusées nucléaires des sous-marins. Et à un moment, je me suis rendu compte dans quoi j'avais atterri, quoi. J'étais vraiment dans la recherche militaire du coucou. Et puis, je me suis demandé si vraiment j'avais envie de faire ça. Et je me suis dit, je suis scientifique, je suis ingénieur, je crois que j'ai pas tellement envie de travailler là-dedans, quoi, c'est tout. Et on m'aurait payé 10 fois le prix, j'aurais pas eu envie non plus. Donc c'est une question de goût, quoi. Mais maintenant, il y a des gens qui travaillent là-dedans, ils trouvent ça tout à fait naturel. Et même si on leur dit, mais ça vous gêne pas de fabriquer des armes bactériologiques, ils vous répondront avec la plus grande candeur, non, pourquoi?
Oui, certains répondront, si ce n'est pas moi, ce sera quelqu'un d'autre.
Ou alors, il y a ce type de réponse que j'ai déjà entendu aussi, je ne sais pas combien de fois. Quoi.
On va retrouver Antoine à l'antenne. Bonjour. Bonsoir.
Bonsoir. Jean-Pierre Batty, bonsoir. Je trouve vos réflexions assez édifiantes, en fait. celles que vous venez de faire. J'aurais une question très basique, en fait, de physique qui concerne la relativité et la vitesse de la lumière en particulier. C'est-à-dire que j'ai pas un fond scientifique très élaboré, j'ai fait quelques lectures. Et je me suis arrêté à la relativité restreinte, j'ai compris un petit peu.
Alors, formulez votre question.
Et en fait, ma question se résume à c'est quoi ce C et l'impression que m'a laissé cette lecture, en fait, c'est que ce C en tant que vitesse indépassable et ce C en tant que vitesse de la lumière, la corrélation entre les deux, tenez finalement du postulat. Est-ce que j'ai rien compris ou pas?
J'ai fait une bande dessinée dans la série des albums d'Anselme Lanturlu qui s'appelle Tout est relatif.
Ouais, ouais.
Et je crois que c'est certainement, c'est très probablement le seul truc vulgarisateur qui explique réellement les choses. Le fait qu'il y ait une vitesse limite, c'est un problème géométrique. Et vous verrez dans cette bande dessinée, je sais, vous pouvez vous la procurer en commandant un JP petit, vous verrez, vous trouverez des trucs sur mon site, vous procurez ce CD où il y a 19 bandes dessinées, dont celle-là, et dans la BD, on explique que le fait de ne pas pouvoir dépasser la vitesse de la lumière, c'est comme de dire on ne peut pas aller plus profondément qu'au centre d'une sphère. Vous comprenez? Hein, c'est un problème géométrique. Si je vous dis, je peux pas aller plus vite que 300 000 km par seconde, on se dit, mais si je vais à 320 000, qu'est-ce qui se passe? Le ciel va me tomber sur la tête ou un truc comme ça. Mais non, c'est pas ça, c'est que la vision de l'univers est fausse, et en fait, tout se passe comme si les particules qui vont à la vitesse de lumière, elles étaient en fait concentrées au centre d'une sphère, où elles tournent d'ailleurs, mais elles ne peuvent pas descendre plus profond. Oui. C'est un problème géométrique, et c'est très difficile à expliquer aux gens, donc j'ai donné une image qui n'est pas trop mauvaise, qui marche pas trop mal, qui a d'ailleurs des fondements ontologiques réels. Bon, bah écoutez, ça, je pense que si vous plongez dans cette bande dessinée, elle va vous apprendre pas mal de choses.
Je m'en mettrai à la BD alors. Merci.
Merci Antoine. Eh bien, auditeur suivant, auditrice. Tiens, on n'a pas eu d'auditrice pour l'instant.